Le 5 novembre 2018, l'effondrement de deux immeubles rue d'Aubagne provoque la mort de 8 personnes. 6 ans plus tard, les propriétaires, bailleurs, syndics, experts, élus, sont jugés pour leur inaction malgré les signalements répétés sur le délabrement des bâtiments. Depuis le début du procès, le 7 novembre, des greffiers populaires sont présents et prennent des notes. Des crieurs et crieuses publiques racontent le procès chaque semaine, les mercredis à 17h à l'angle Belzance-Canebière et à 17h45 place Halle de la Croix, les vendredis de 17h à 17h45 sur la Plaine et les samedis à 11h et 11h45 place Cadena. L'enregistrement qui suit a été pris lors d'une criée publique.
Épisode 2, faites entrer les fissures. Récit du procès du 13 au 18 novembre.
Le procès de la rue de Bagne, avant qu'elle dans la rue. Restez pour écouter. Mesdames et messieurs, nous sommes les curieuses publiques. Nous sommes ici pour vous raconter le procès du mal-logement qui s'est ouvert suite aux effondrements des 63-67 rue d'Aubagne le 5 novembre 2018, ayant causé la mort de 8 personnes. Après 5 ans d'enquête, le procès s'est ouvert le 7 novembre dernier à Marseille, à la caserne du Mouy, et va durer au moins 6 semaines.
Mercredi 13 novembre, à la barre, deux experts missionnés pour l'enquête rappellent l'âge des 63, 65, 67 rue d'Aubagne. Ils ont été construits à la fin du XVIIe siècle. Tout de suite, l'avocat de la défense demande...
S'il n'y avait pas d'eau dans les immeubles infiltrés en haut et en bas, est-ce que l'immeuble s'effondre ?
Le premier expert répond, les immeubles ont tenu 350 ans, de l'eau ils en ont vu. Ce qui veut dire que leur conception n'est pas si terrible que ça. C'est tout ce que je peux vous dire.
Le deuxième expert entame un exposé du scénario probable des effondrements. Suite à de multiples alertes, souvent mal considérées, les sources de l'effondrement peuvent provenir de trois endroits.
1. Le mur mitoyen entre les numéros 63 et 65 est gonflé et prêt à exploser par bouffement. Savez-vous ce qu'est un bouffement pour un immeuble ? Nous l'apprenons au procès. Quand les deux cloisons du mur sont désolidarisées par une fissure, on appelle cela un bouffement.
2. La cloison dans l'entrée qui venait d'être reconstruite après avoir déjà éclaté 2 semaines plus tôt, déclenche un effet de cascade.
3. Un poteau en état de décomposition dans la cave 65 que l'expert mandaté n'avait pas pris la peine de visiter. 7. Ne pouvant plus supporter le poids des étages supérieurs, entraînant ainsi la chute des immeubles.
Le juge demande.
Maintenant, dites-moi, quel a été l'élément déclencheur ? Pourquoi cela arrive ce jour-là à 9h07 ?
Les experts répondent.
C'est la rupture du poteau causée par un ajout de charme. À ce stade, le poteau ne pouvait plus rien supporter. Pour nous, l'effondrement était inéluctable.
L'expert conclut la journée en disant.
Je ne comprends pas comment on peut envoyer des gens dans un immeuble dans cet état.
Jeudi 14 novembre, on accueille à la barre deux nouveaux experts qui ont réalisé une étude pour savoir si l'eau a pu jouer un rôle aggravant. Attention, c'est très technique. Question du jour. Monsieur l'expert,
est-ce que vous pouvez faire la différence entre un tassement provoqué par la pluie et un tassement provoqué par des fuites de canalisation ?
L'expert répond non.
Non, madame, je ne peux pas.
L'avocat de Richard Cartin, architecte accusé, insiste sur le rôle de la rue, sur les causes de l'effondrement des 63-67 rue d'Aubagne. L'expert affirme.
Quand bien même il y aurait eu des pluies torrentielles en octobre, c'est vrai, mais l'effondrement c'est tout de suite après, début novembre. Il faudrait un facteur temps. Et là, le facteur temps, on l'a pas.
Aucun expert n'affirme que la pluie ait pu jouer un rôle déclenchant dans les effondrements.
Vendredi 15 novembre, aujourd'hui s'ouvre un nouveau volet de l'audience. pendant 10 jours vont venir témoigner les parents et les proches des victimes mortes dans l'effondrement.
Tiens, aujourd'hui, Julien Béat, ancien adjoint municipal à l'équipe de Gaudin, mis en examen dans le procès, est assis dans le tribunal. C'est la première fois de la semaine.
La première fois de la semaine, Julien, bienvenue. D'abord, les parents de Simona, qui vivaient au troisième étage du 65 rue d'Aubagne. Collés l'un contre l'autre, ils évoquent leur fille, morte à 30 ans. Il y a des crimes déterminés, têtus, altruistes, souriants.
Sourire, d'ailleurs, c'était son surnom. Elle parlait l'arabe, le wolof, l'italien, le français et d'autres langues encore. Elle habitait Noailles depuis 2017. Les parents de Simona étaient venus deux fois à Marseille et n'étaient pas très rassurés par l'état de l'immeuble.
Simona disait...
Mais cet immeuble a connu la Révolution française.
Et son père a avoué plus tard...
Je pensais que c'était une blague, j'ai appris plus tard qu'elle s'était prise.
Sa mère l'a poussée à déménager et sa fille lui répondait toujours
« Maman, c'est quoi ton métier? Arrête de me donner du stress. Ici, les professionnels ont dit que c'était OK. »
Les professionnels ont dit que c'était OK.
Depuis son départ d'Italie à 19 ans, Simona, chaque matin, fait signe à sa mère par téléphone pour lui dire que tout va bien. Le 5 novembre 2018, à 8h20, elle le fait de nouveau. Elle a rendez-vous à 9h30 pour trouver un nouvel appartement. À 9h07, l'immeuble s'effondre. Simona et Papé, son nouvel amoureux, sont engloutis sous les décombres.
Papé, 26 ans. Aucun membre de sa famille sénégalaise n'a obtenu de visa pour assister au procès. Seul son petit frère Didiac peut témoigner.
C'est une personne lumineuse, un acharné de travail, une personne ressource. J'ai perdu un idole. Je sais que le dernier soir, c'est lui qui avait cuisiné pour un groupe d'amis.
Fabien, occupant du 4e étage côté rue, travailleur handicapé suite à une contamination à l'amiante, 54 ans. Son fils Léo arrive à la barre.
J'ai perdu ma mère quand j'avais 8 ans. Mon père était vraiment important pour moi. C'était quelqu'un de gentil, trop gentil, un grand rêveur. J'étais pas serein qu'il habite ici. Il parlait de l'immeuble qui s'était déformé. Il payait son loyer, comme tous les autres, sans problème.
Depuis début novembre, la porte de l'appartement de Fabien ne se ferme plus à cause du tassement de l'immeuble. Il se fait agresser chez lui. Il avait rendez-vous ce 5 novembre 2018 à 9h pour aller porter plainte. Il ne pourra pas sortir de son logement. Léo conclut.
Mes parents étaient artistes et j'ai perdu toute mon histoire dans cet effondrement.
Marie-Emmanuelle, 55 ans, au dernier étage. À 2h40 du matin, le 5 novembre, elle a appelé les marins-pompiers pour faire part de son inquiétude. Elle entend d'importants craquements dans l'immeuble. Sa voix est posée. Son interlocuteur se veut rassurant. Un immeuble, ça ne s'écroule pas comme ça. Marie-Emmanuelle raccroche rassurée.
Son frère Paul s'avance à la barre.
Je suis l'unique petit frère de Marie-Emmanuelle. Je me souviens du 5 novembre. Nous essayons d'appeler Marie-Emmanuelle. Elle ne répond pas à la dizaine de nos appels. Nous comprenons qu'elle est sous les décombres de son immeuble.
Plus tard, la famille apprend à la télévision que le corps de Marie-Emmanuelle a été retrouvé. Le même jour, la mère de la fratrie est victime d'un AVC et décède.
Pour moi, il y a 9 victimes dans ce drame.
Fini par dire Paul.
La journée du vendredi se termine avec le témoignage d'Abdel Ghani, un miraculé des effondrements. Il a filmé son appartement et l'immeuble avant l'effondrement. Il était en route pour montrer ses vidéos au syndic cabinet Lyotard. Il dit...
Je ne voyais pas ce que je pouvais apporter. Sophie et Marie-Emmanuelle avaient déjà envoyé des mails détaillés au syndic. Je me suis dit que je devais leur emmener une factuelle.
Il conclut...
J'avais imaginé que l'immeuble puisse s'effondrer. J'aurais jamais pensé, par contre, que ce serait si immédiat.
Lundi 18 novembre, c'est au tour de Liliana, la maman de Julien, habitant du 2e étage du 65 rue d'Aubagne. Franco-péruvien de 30 ans, sa mère dit de lui...
C'était un grand gaillard. Un ours panda, il défendait les plus petits que...
Son fils s'est installé à Marseille en mars 2018.
Pour lui, Marseille, c'était le monde.
Un jour, il m'a appelé, dit-elle. Excusez-moi. Maman, j'ai un copain qui m'a parlé d'un appartement, celui de sa mère, qu'il pourrait me louer. Sur les photos, ça me semblait bien.
Le copain, le fils de la propriétaire, c'était Alexis Bonetto.
Le matin de l'effondrement, à 8h30, Julien téléphone à Alexis pour lui signaler que sa porte ne ferme plus. Il ne décroche pas. Après l'effondrement, Alexis tente de le rappeler.
Voyant qu'il ne me répondait pas, j'ai contacté son employeur. Quand on m'a dit qu'il n'était pas au travail, j'ai compris que quelque chose de très grave s'était passé, témoigne Alexis.
Le matin du drame, Julien devait aller travailler. Sa mère raconte qu'il n'est pas allé au travail car il avait peur de se faire cambrioler, sa porte ne fermant plus. Il est resté chez lui et l'immeuble s'est effondré à 9h07.
Michel Bonetto, le propriétaire de l'appartement de Julien, la mère d'Alexis, tente de se défendre.
En 2011, j'avais demandé à la copropriété que la cage d'escalier soit refaite. Deux fois, ça m'a été refusé. Moi, j'ai toujours donné mon accord pour les travaux. Le couloir, on l'a repeint.
Le président lui fait remarquer.
Les peintures, ce n'est pas très structurel.
Elle répond.
Je n'étais pas au courant de problèmes structurels.
Le tribunal a pourtant relevé par deux fois, en 2012 et 2017, Madame Bonetto a voté contre un diagnostic de la structure de l'immeuble et des travaux structurels.
Cette journée du lundi 18 novembre se termine par le témoignage d'Alexia, une locataire survivante du quatrième étage. Elle raconte.
Dès que je me douchais, l'eau coulait chez Simona. J'ai alerté ma propriétaire.
Le week-end précédent, elle remarque des fissures qui grandissaient sur les murs.
Elle faisait la taille d'un serpent. Je l'avais dit à ma proprio qui me disait que c'était normal. Il fallait que l'immeuble vive et que je paye mon loyer.
Après le drame, dans un mail, sa propriétaire propose de lui verser 1000 euros pour la perte de ses affaires et de son chat. Elle lui répond, j'appelle ça de l'humiliation.
Lors des assemblées générales de l'immeuble, la propriétaire d'Alexia n'avait pas voté en faveur des travaux de réfection.
Fin de l'épisode 2. Merci pour vos oreilles. Merci à Luc, merci à Maëlle, merci à Émilie, merci à Loïc. Nous sommes les crieuses publiques. Nous crions le procès de la rue d'Aubagne, épisode par épisode, semaine après semaine, et mercredi à Noailles et sur la Calvière, et vendredi sur la Plaine, et samedi, place Cadena. Il y a une boîte sur un banc là-bas, vous pouvez laisser des messages de soutien aux familles des victimes, des messages à adresser au pouvoir public. Nous serons priés chaque semaine après notre récit du procès. Merci et bonne matinée.
Vous venez d'écouter une criée publique racontant le procès des effondrements de la rue d'Aubagne. Des crieurs et crieuses publiques racontent le procès chaque semaine, les mercredis à 17h à l'angle Belzance-Canebière et à 17h45 place Halle de la Croix, les vendredis de 17h à 17h45 sur la Plaine et les samedis à 11h et 11h45 place Cadena. Vous pouvez aussi assister au procès à la caserne du Muy, 21 rue Bugeaud, du lundi au vendredi jusqu'au 18 décembre.